Europe 1, 14h-15h, clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Vous me voyez venir en ce 26 décembre, j'espère d'ailleurs que vous passez de belles fêtes de fin d'année. On a décidé de s'intéresser au film de Noël. Alors pourquoi est-ce qu'on aime autant revoir ces films multidiffusés uniquement pendant les fêtes, au scénario et à la mise en scène parfois un peu limité? Un plaisir coupable qui dit aussi des choses de notre société, ce sera notre récit du jour. 14h30, les films de ma vie, et c'est le Père Noël qui sera notre invité, enfin un Père Noël sur grand écran. Rappelez-vous, Gérard Jugnot dans Le Père Noël est une ordure.
Joyeux Noël, fait !
Gérard Jugnot qui nous parlera donc de ses souvenirs de cinéma, quel est le premier film qu'il a vu en salle, celui qui le fait le plus rire ou le plus pleurer, son film honteux aussi ou son dialogue de cinéma préféré. Et puis juste après, comme d'habitude, on accueillera nos critiques pour débattre des films à voir sur vos plateformes ainsi qu'en DVD, VOD. Au programme aujourd'hui, le nouveau film de Georges Clooney comme réalisateur dans lequel il joue également le rôle principal. Ça s'appelle Minuit dans l'univers, c'est sur Netflix. Nous débattrons aussi de Soul, le Disney Pixar. Ça, vous trouvez ça sur Disney+, ça devait sortir en salle, mais c'est directement sur la plateforme. Et puis deux films qui débarquent sur MyCanal, Le Prince oublié porté par Omar Sy et Selfie, film à sketch qui critique notre époque, vous verrez ça. Voilà pour le programme de ce clap spécial Noël et d'abord donc notre récit consacré au film de Noël.
Europe 1. Le récit.
Allez, on se met en condition, le thé est en train de chauffer, le plaid est déjà sur vos genoux, un coussin dans le dos et on allume la télé pour regarder un bon vieux film de Noël. Ils envahissent nos écrans chaque année à cette période, que ce soit sur les chaînes classiques, sur vos plateformes, à la une des sites de VOD. D'ailleurs, savez-vous quel est le film le plus diffusé en Europe le 24 décembre ? Je vous laisse quelques secondes de réflexion.
Mais ça, c'est à Kevin, passe ça à Kevin.
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 Eh bien, il s'agit de « Maman, j'ai raté l'avion ».
Kevin n'est pas là.
Kevin n'est pas là.
Kevin n'est pas là.
Quoi ?
L'histoire de notre petit Kevin, 8 ans, oublié chez lui à quelques jours de Noël et qui doit faire preuve d'une certaine imagination pour repousser des voleurs.
Hé hey les gars, vous abandonnez ou vous en refoulez encore ?
Alors il faut bien le dire, c'est aussi une technique des chaînes de télévision de rediffuser les mêmes films à chaque fin d'année. Ça permet justement de les étiqueter comme films de Noël. En France, le classique des classiques, c'est Le Père Noël est une ordure, Jean-Marie Poiret.
Joyeux Noël, Pierre.
Ah, c'est pour moi ? Oh, écoutez, Thérèse, merci beaucoup. Il fallait pas, vraiment.
Non, j'espère que ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout.
Oh non, écoutez, Thérèse, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Oh, ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez.
Non, Pierre, c'est un gilet.
Gérard Jugnot sera d'ailleurs avec nous tout à l'heure dans notre séquence Les films de ma vie, mais au départ, lors de sa sortie au cinéma, Le Père Noël est une ordure déclenche une mini-polémique. D'abord, il devait s'appeler Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. Nom finalement abandonné car jugé trop provocateur. Mais même avec ce nouveau titre, certains exploitants de cinéma trouvent qu'il porte un peu trop atteinte au mythe du Père Noël et rajoutent sur leurs affiches Le Père Noël, entre parenthèses, pas le vrai, fermez la parenthèse, est une ordure. 1 500 000 spectateurs vont le découvrir en salle. C'est un beau score, mais loin d'autres films de l'époque, devenus eux aussi des classiques comme La Boum ou Les Soudoués. C'est finalement grâce à la télévision que Le Père Noël va devenir un film de Noël culte. Écoutez Marianne Chazelle qui en parlait au micro d'Europe 1.
Ben on s'est énormément amusé parce qu'on était totalement libre de faire toutes les conneries qu'on voulait. Oh oui. Et personne ne nous disait c'est trop. Donc on est parti dans notre délire personnel et on a bien fait parce que je crois que les gens ont aimé ça et ça a plu. Mais c'est vrai que c'est de la liberté.
Alors évidemment, l'histoire d'un Père Noël qui est une ordure, c'est idéal en période de fête de Noël. Mais au-delà de ça, c'est l'humour du film et ces scènes devenues cultes qui en font un classique de Noël. Deuxième ingrédient indispensable pour devenir un film de Noël, l'amour bien sûr, le réconfort. C'est pourquoi beaucoup de ces films sont des comédies romantiques, comme The Holiday, réalisé par Nancy Meyers. Le film sorti en 2006 raconte l'histoire d'Amanda et Iris, interprétées par Kate Winslet et Cameron Diaz. L'une est américaine, l'autre est anglaise, et le temps des vacances de Noël, elles vont échanger leur maison et faire des rencontres inattendues.
Vous désirez ?
C'est moi. Dépêche-toi, je gèle.
Et qui êtes-vous?
Iris, ouvre vite, ou je me vide la vessie sur ton paillasson.
Oh, vous n'êtes pas Iris. Ou, si vous l'êtes, je suis beaucoup plus chargé que je croyais. Pardon d'avoir été trivial. C'est pas vous que je m'attendais à trouver.
Pour moi aussi, cette visite est vraiment inattendue.
Alors, je vous entends derrière votre poste. Oui, évidemment, parmi les films cultes de Noël qui traitent d'amour, il y a aussi Love Actually de Richard Curtis, un film choral qui nous raconte 10 histoires d'amour avec un casting 5 étoiles. Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth, Emma Thompson.
Soyez le bienvenu, monsieur le Premier ministre. Puis-je vous présenter votre personnel? Voici Nathalie, nouvelle, comme vous.
Enchantée, Nathalie.
Ravie, David. Monsieur le ministre. Merde, comment j'ai pu dire ça? Et en plus, j'ai dit merde, 2 fois de suite. Oh, monsieur, toutes mes excuses.
C'est pas grave, voyons. Vous auriez dit putain, là, nous aurions été dans la merde.
Ça, c'est vrai. J'avais le pressentiment que le premier jour, j'allais merder comme une conne. Oh là là, oh putain.
Et pour une fois, je vais vous révéler la fin du film, puisqu'elle est devenue culte. Hugh Grant qui se précipite pour retrouver sa bien-aimée. Troisième ingrédient maintenant pour un bon film de Noël, la famille et les traditions. Comme dans La bûche de Daniel Thompson, l'histoire de 3 sœurs qui invitent leur belle-mère à un dîner de Noël car leur papa vient tout juste de mourir. Il y a Luba, la danseuse de cabaret, Sonia, la bourgeoise et Mia, la rebelle. Ensemble, elles vont découvrir l'existence d'un demi-frère. Daniel Thompson expliquait au micro d'Europe 1 pourquoi elle tenait à ce que Noël soit la trame de fond de son premier film.
D'abord, c'est vrai que le sujet est venu de l'observation des 15 jours qui précèdent Noël. C'est générateur d'angoisse au pluriel, du fait qu'on est fauché, qu'il fait froid, qu'il y a des gens seuls, qu'il y a un mélange tout à coup des genres, des familles recomposées, des opinions politiques, des gens qu'on évite toute l'année. C'est une période qui est censée être totalement joyeuse et qui, bizarrement, l'est quand même. Mais avec un prix à payer qui est cette espèce d'effervescence anxiogène, voilà.
Alors j'aurais pu aussi vous parler de l'importance du fantastique dans certains films de Noël. Les Gremlins, The Grinch, L'étrange Noël de Monsieur Jack, bien sûr. Mais depuis quelques années, certains réalisateurs ont décidé de prendre un peu le contre-pied de tout ça et de tourner Noël en dérision. Exemple avec Alain Chabat et son Santa et compagnie. L'usine du Père Noël tourne à plein régime à quelques jours de la nuit de livraison lorsque ses 92 000 lutins tombent malades. Pour les soigner, il doit aller sur Terre trouver de la vitamine C.
Non, c'est une catastrophe.
C'est ça qu'il faut.
Quoi?
Eh ben, va chercher 92 000 tubes de vitamine C, tu fais un aller-retour là, pifouf.
Ou là, maintenant?
Ben oui, là, maintenant, Santa enfin. Il faut sortir les doigts de la hotte, là.
Même pas eu le temps de réviser le traîneau. J'ai le mode furtif en rade, les patins ils sont tout lisses et j'ai un rein à plat à l'avant. C'est du suicide!
Alain Chabat expliquait alors au micro d'Europe 1 avoir voulu faire un film de Noël différent.
Évidemment, c'est dans la tradition des films de Noël. Je pense qu'il est un peu, enfin, légèrement différent. Le Père Noël, il connaît pas les humains, hein, c'est sûr. Lui, il les voit endormis, en fait. La nuit de Noël, c'est ça qu'il connaît des humains. Donc c'est la première fois qu'il va voir des humains réveillés. J'ai essayé d'explorer un peu toutes les pistes et rebondissements divers en déroulant ce fil, quoi.
Et il y a quelques semaines, on a même vu apparaître le premier film de Noël lesbien, Happiest Season, avec dans le rôle titre l'actrice engagée Kristen Stewart. Abby veut demander Harper en mariage, mais lors d'un séjour à Noël dans sa belle famille, elle se rend compte qu'Harper n'a jamais fait son coming out. Sa famille conservatrice n'est au courant de rien et Abby doit se faire passer pour la coloc au lieu de la petite amie.
Abby, est-ce que tout va bien?
Ouais, il y a juste un petit souci. Ses parents savent pas qu'on est ensemble ou même qu'elle est gay.
Alors quoi, ses parents pensent vraiment que leur fille hétéro a ramené à la maison son amie lesbienne?
Ils pensent aussi que je suis pas gay.
Est-ce qu'ils ont déjà rencontré une lesbienne?
Le film est disponible en VOD en France et sur la plateforme Hulu aux États-Unis. Et justement, les plateformes ont bien compris que ces films de Noël attirent un très large public au moment des fêtes. Netflix, par exemple, propose de nombreux films dans son catalogue, des classiques bien sûr, mais aussi beaucoup de créations originales. Depuis le mois de novembre, il y a des nouveautés quasi chaque semaine, leurs titres, Flocons d'amour, L'alchimie de Noël, Les chroniques de Noël, Un Noël 5 étoiles. Les titres ne sont pas très originaux et le jeu d'acteur plutôt moyen, mais promis, ils vous rempliront d'amour. C'est le cas de Christmas Prince sur Netflix, l'histoire d'Amber, aspirante journaliste qui s'envole pour le royaume d'Aldovia, objectif décrocher un scoop sur le futur roi. Et évidemment, elle ne va pas décrocher qu'un scoop et ça va être le coup de foudre.
En tout cas, j'espère que vous serez là demain soir.
Demain soir?
Oui, au bal du réveillon.
Quoi? Qu'est-ce que c'est?
Un roi peut se sentir très seul, vous savez, quand il n'a pas sa reine.
Et ce film a tellement bien marché que Netflix a déjà lancé la production de deux suites. Alors comment expliquer cet engouement pour les films de Noël en cette saison? Quelles sont les dernières tendances, les meilleurs ou pires films de Noël? On continue d'en parler dans un instant avec notre invitée Barbara Laborde, enseignante et spécialiste du cinéma et de la télévision. Et puisqu'on parlait de Love Actually et que c'est de circonstance, on va s'écouter un extrait de la bande originale du film All You Need Is Love. Et nous, on a choisi la version des Beatles. Vous êtes à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe 1.
You can sing the can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.
On continue de parler des films de Noël dans ce clap spécial aujourd'hui. Film de Noël, c'est un genre à part entière. Et pour poursuivre notre réflexion, justement, j'accueille Barbara Laborde. Bonjour.
Bonjour.
Enseignante-chercheuse à l'Université La Sorbonne Nouvelle, spécialiste du cinéma et de la télévision. Et c'est ce qui nous intéressait dans votre profil, parce que c'est vrai que ces films de Noël, on a l'impression qu'ils sont devenus cultes et surtout ils sont devenus films de Noël cultes parce que justement les chaînes les ont programmés un petit peu pendant ces fêtes à chaque fois. Est-ce que c'est le cas ?
Oui, c'est ça exactement. En fait, ce sont des films qui partent de la télévision au départ. C'est-à-dire que la télévision, alors là je vous parle des années 50 hein, et surtout donc aux États-Unis, était sponsorisée. C'est-à-dire que les programmes qui étaient diffusés sur les chaînes de télé étaient quasiment tous sponsorisés par des grandes marques. Et en particulier à Noël, ces grandes marques qui avaient donc, qui disposaient de programmation spécifique hein, sur les networks américains, diffusaient des films qui étaient des films de placement de produits, en fait. Et donc, on a un très bel exemple d'un film qui s'appelle Miracle sur la 34e avenue, qui en fait est sponsorisé par Macy's, grande surface.
Une grande surface sur la 34e avenue. Voilà,
exactement. Et donc, ça date de 1947. Hein, vous voyez, donc c'est quand même.
Ah oui, déjà,
oui. Ouais, c'est les débuts de la télévision. Et eux, ont financé un film de Noël où il y a un Père Noël qui se prend pour le vrai Père Noël en plus. Donc, il y a une histoire un petit peu compliquée autour de ce personnage. Mais surtout, tout le film est jalonné de placements de produits Macy's. Et justement, tout un quelque chose d'un peu rigolo dans le scénario où justement le Père Noël envoie des clients dans d'autres grandes surfaces parce qu'il n'y a pas le produit qu'il recherche chez Macy's. Donc voilà, c'est assez rigolo. Et il y a eu un remake de ce film fait dans les années 90 où c'est effectivement l'époque un peu d'un revival des films de Noël et donc aussi des téléfilms de Noël puisque dans les années 90-2000, on va avoir un rebond un peu de ce type de production qui s'était plutôt calmé dans les années 80. Donc voilà, il y a quand même une histoire qui remonte à la télévision, en fait.
Mais on a l'impression qu'en France, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a eu peu de films de Noël prévus pour être des films ou des téléfilms, et que c'est qu'en fait, par exemple, je pense au Père Noël est une ordure, quand il sort en salle, bon, il a son petit succès, mais c'est pas un film culte. Et justement, on a l'impression que là, c'est le processus inverse. C'est la télévision en France qui a pris des films qui parlent de Noël ou d'histoire d'amour, etc., et qu'on en fait des films cultes, 10 films de Noël.
Exactement. Ça, c'était des stratégies d'éditorialisation des chaînes de télé qui se sont bien rendues compte qu'à Noël, il y avait une demande particulière et puis un téléspectatorat particulier parce que les gens sont plus souvent chez eux, plus longtemps, c'est les vacances, ils sont en famille, ils sont plus disposés à regarder la télévision. Donc, c'était surtout des programmes de milieu d'après-midi, en fait, puisque les gens sont chez eux. Là où d'habitude, ils vont à l'école, ils sont au travail. Donc, les chaînes, évidemment, se sont demandé comment occuper ces plages horaires. Et du coup, on se sont appropriés ou ont financé, ont payé ou ont acheté des films qu'ils ont casés là, alors que ce n'était pas forcément prévu pour. Évidemment, Le Père Noël est une ordure, c'est un très bon exemple. Après, il y a eu toute une époque, plutôt dans les années 80, avant justement ce succès des films de Noël dans les années 90-2000, où on programmait chroniquement, de façon hyper récurrente, un peu toujours les mêmes films dans cette période-là. Je pense par exemple au Sissi. Alors Sissi, c'était toujours programmé à Noël et on avait toute la série Sissi impératrice, Sissi face à son destin, etc. Ou des films comme Meyerling, enfin des films qui finalement n'étaient pas du tout tournés dans la perspective de Noël, mais qui du coup se plaçaient bien à ce moment-là. Et où du coup on les attendait aussi un peu. Parce qu'on savait qu'il passait à Noël, quoi, en gros.
Mais justement, quand vous dites qu'il y a tous les ingrédients dans un film de Noël, c'est quoi les ingrédients d'un film de Noël ? Parce qu'il faut qu'on parle du Père Noël, mais pas toujours. Il faut qu'il y ait une histoire d'amour. Bon, là, que ça se termine bien quand même, c'est mieux. Il faut que ça parle de famille. C'est quoi les ingrédients d'un film de Noël tel qu'on l'imagine aujourd'hui ?
Oui, alors quand les télévisions et le cinéma se sont mis vraiment à financer des films pour Noël, c'est-à-dire en les pensant vraiment pour Noël, donc en termes de scénario, en termes de casting, en termes de diffusion, là, ça a un petit peu changé quand même la nature de ces films et ça les a davantage, j'allais dire, homogénéisés, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent effectivement tous un peu. Et ça, c'est plus depuis les années 90-2000, avec un bon essor dans les années 2010 et jusqu'à maintenant, puisque les plateformes s'y mettent. Et on va regarder sur Netflix, Disney+, sur tout ce que vous voulez. Il y a une pléthorique liste de films de Noël qui ont été spécialement financés pour cette période-là. Et alors là, les recettes, du coup, sont un peu toujours les mêmes. On est entre la comédie de mœurs, la comédie familiale, avec quand même toujours un petit moment dans le film un peu tragique, où les gens sont blessés, ne savent pas trop quoi faire, etc. Moi, je trouve que ce sont des films de bilan, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment donné dans le scénario où un des personnages trouve sa vraie voix, comprend où sont ses vraies valeurs, comprend ce qu'il désire vraiment.
Où est l'essentiel ?
Voilà, où est l'essentiel. Et donc, ça correspond à cette fin d'année où on fait tous des bilans, on se projette sur l'année d'après, on fait les bonnes résolutions, etc. Et ces films disent ça. Et téléfilms, c'est pareil. La télévision est un média de l'intime, hein, donc les plateformes, c'est pareil. On essaye de faire des films qui disent quelque chose à un public qui est déjà un peu dans cet état d'esprit à ce moment-là de l'année. Et donc, moi, je trouve que leur caractéristique principale, dans la narration en tout cas, c'est ça, c'est des films de bilan, où on se rend compte des vraies valeurs, et où on va adhérer à ces vraies valeurs et à son vrai désir, quoi, quelque part.
Et vous le disiez, Barbara Laborde, c'est venu des États-Unis. Du coup, ces valeurs bilan, famille, amour, patrie, c'est quand même très américain. C'est-à-dire qu'au début, en France, effectivement, on est plutôt sur le Père Noël est une ordure.
Ouais, c'est très américain et c'est très normatif. C'est vrai que c'est la famille blanche hétérosexuelle et plutôt riche.
Ouais, c'est ça. Hein, donc, quel moyen de fêter Noël.
Voilà. Donc, on est quand même dans une norme hégémonique qui n'est pas tellement discutée, avec un modèle de famille un peu montré comme légitime et auquel il faudrait absolument adhérer. Du coup, en France, on a un peu un recul un peu ironique par rapport à tout ça. C'est plutôt cuisine et dépendance, quoi. C'est-à-dire, oui, ça se passe à Noël, mais finalement, tout part en vrille, ça ne va pas du tout comme on le souhaiterait. Parce que je pense qu'on a toujours, par rapport à la culture américaine, et surtout dans le champ du cinéma, où on tient beaucoup à nos spécificités françaises, d'une cinéphilie à la française, on essaie justement de ne pas trop aller sur le terrain des Américains, de faire un peu autre chose, des choses plus ironiques. Hein, voilà.
Et vous disiez, les plateformes s'y mettent, effectivement, il suffit d'ouvrir Disney+, il suffit d'ouvrir en ce moment Netflix, il y a des nouveautés, des films qui ont été produits pour ça.
Ouais.
En revanche, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore de série de Noël.
Je ne crois pas qu'il y ait de série de Noël.
Comment ça se fait ? Parce que ces plateformes, elles financent aussi beaucoup de séries. Alors.
C'est vrai. Alors, il se trouve quand même que chaque grande série a son épisode de Noël.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire que ça va se jouer dans la diffusion sur un épisode ou deux, où c'est la préparation de Noël, où c'est Noël. Donc le décor change, les personnages changent aussi de tenue vestimentaire, il se passe quelque chose d'un peu particulier, un climax qui est pensé pour Noël. Donc quelque part, c'est une façon, dans la production sérielle, de trouver à Noël sa place.
Et vous disiez justement que c'est des films qui racontent une société américaine, qui sont très normés, mais on a l'impression quand même que c'est en train un petit peu d'évoluer. On parlait tout à l'heure du premier film Noël où il y avait une histoire d'amour lesbienne. Voilà, on a l'impression quand même que petit à petit, les choses évoluent. C'est une impression ou c'est une réalité ?
Non, c'est une réalité. Je crois qu'il y a un effort général en ce moment pour essayer d'aller vers plus de représentativité genrée, au niveau des préférences sexuelles, au niveau ethnique aussi. On commence à avoir des Noirs, on commence à avoir d'autres types d'identités ethniques dans ce genre de film. Alors qu'au début, c'était vraiment... les blancs, voilà, hein, c'était, il n'y avait pas de doute là-dessus. Et là, il y a cet élan-là, il est général. Je crois dans toutes les séries qu'on voit Netflix ou les autres plateformes, il y a dans les productions sérielles un effort vers plus de diversité dans la représentation. Et donc, ça joue aussi dans les films de Noël, avec effectivement une avancée assez timide.
Oui.
C'est-à-dire que de temps en temps, il y a un personnage qui sort un peu voilà, de cette vision très hégémonique, mais on n'a pas encore des films de Noël où vraiment ça part en vrille sur les valeurs de la famille, etc. Enfin, on retombe quand même un peu toujours sur une forme de normativité voilà, qui est celle qui est aussi majoritairement la plus répandue dans cette sphère-là, qui est américano-européenne.
Ouais. Ouais, donc... Pour conclure, votre film de Noël, votre conseil, Barbara Laborde.
Mon conseil, c'est de les regarder. Et même si c'est que par curiosité, et même si c'est un peu qu'en fond sonore, en faisant autre chose, c'est-à-dire en préparant.
Vous préférez, vous ?
Moi, j'aime bien Christmas at Snowfall, c'est Netflix. Je le trouve pas mal.
C'est l'histoire de quoi ?
C'est pareil, une jeune femme qui finalement se dit que peut-être le bonheur est ailleurs et que finalement elle aimerait bien vivre un petit peu autrement avec d'autres désirs et où elle hésite un peu entre deux prétendants qui n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques mais si chacun lui apporterait quelque chose de différent. Donc, voilà, hein, c'est un peu toujours le même film, encore une fois. Mais je les trouve attachants ces films parce qu'ils disent quelque chose de nous aussi.
C'est sûr, et c'est pour ça qu'on les aime sans doute.
Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup en tout cas Barbara Laborde d'être venue dans le studio de Clap aujourd'hui, enseignante à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste du cinéma et de la télévision. Et vous allez laisser votre place, puisque dans un instant, c'est un Père Noël qui la prendra, en tout cas version ordure, puisque Gérard Jugnot sera avec nous pour nous parler des films de sa vie, répondre à notre questionnaire et nous dire voilà tous les grands moments de cinéma qui ont jalonné son parcours. Merci d'être venu.
Je vous en prie, merci à vous.
Europe 1.
Et on se retrouve dans Clap pour les films de ma vie. Vous connaissez le principe, une personnalité qui répond à un questionnaire de Proust, mais version cinéma. Et cette semaine, c'est Gérard Jugnot qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
À l'occasion de la sortie du livre « C'est l'heure des contes » chez Flammarion, dans lequel vous revisitez avec une plume acerbe des contes pour enfants de Perrault, La Fontaine ou Grimm. C'est une belle idée de cadeau de Noël. Est-ce que vous êtes prêt, Gérard ? C'est parti pour notre questionnaire ?
Oui, absolument.
Alors déjà, quel est votre premier souvenir de cinéma ?
C'était un programme où il y avait deux films, deux moyens-métrages. Il y avait Le Ballon Rouge d'Albert Lamoris, qui était une histoire documentaire, l'histoire d'un petit garçon qui avait un ballon et il perdait son ballon, on lui crevait, je sais pas, ça m'a bouleversé. Et il y avait un truc sur Saturnin, un petit canard qui parlait, doublé par Issa Barrier, je crois. Et qui me faisait très peur aussi. Donc ça, c'est le souvenir qui me reste. Alors peut-être qu'il y a eu d'autres choses, mais c'est celui-là qui m'a marqué. Et c'était des souvenirs assez violents. Parce que Le Ballon Rouge, c'était affreux. C'était un petit garçon qui avait son ballon qu'on crevait. Et j'avais l'âge d'avoir des ballons qu'on crève. Donc ça m'avait vraiment déchiré.
Votre séance de cinéma la plus dingue, Gérard Jugnot ?
Je pense que c'était un vieux souvenir. C'était à Avignon, il y avait un festival de cinéma pendant le festival d'Avignon. J'étais un cinéphile pur et dur, on voyait des films terribles. Là, je me souviens d'avoir vu à minuit un film japonais sous-titré en anglais, très long. Et j'étais assez épuisé. Je crois que le film, je ne me souviens plus du tout ce que c'était, un mec qui calait, il s'endormait, il rêvait. Et il se réveillait à la fin du film, quoi. Et moi, je me suis endormi en même temps que lui. Donc, je n'ai rien vu de ce film. Je suis parti, je me suis endormi avec le héros, et je me suis réveillé avec le héros, enfin, on m'a secoué un peu. Il devait être 3h du matin, quoi.
Le film culte que vous n'avez jamais vu ?
Il y en a plusieurs que j'essaie de voir. C'est Brésil, je crois.
Suivant.
Je veux signaler une arrestation arbitraire.
Vous allez voir le bureau des réajustements, qui est à notre service.
Oh, mais j'y suis allée, au bureau des réajustements. Oui, et ils m'ont envoyé ici pour avoir le formulaire 303.
Mais avez-vous le reçu d'arrestation?
Oui.
Non, non, il n'y a aucun tampon sur cette feuille. Alors je vous donnerai le formulaire 303 quand vous aurez le tampon.
Et où est-ce que je l'aurai, ce tampon?
Eh bien, au bureau des réajustements.
D'abord, je suis pas fou de l'univers de Terry Gilliams. Mais non, j'accroche pas sur ce truc. Il y en a plusieurs. Il y a quand même des tas de films comme ça qu'on se dit, ah, il paraît que c'est formidable. Qui, souvent, quand on les voit, on se dit qu'on est con parce qu'on aurait dû les voir. Et puis d'autres, on se dit, bah oui, j'ai bien fait. Mais c'est une chose terrible quand on fait des films, d'ailleurs. C'est le hiatus qu'il y a, la différence, enfin, le gouffre qu'il y a entre le film et l'envie que les gens ont d'aller voir ce film. Et parfois il y a des films pas très bien, pas très réussis, mais qu'on a envie formidablement de voir. C'est qu'il y en a qu'on devrait voir et qu'on voit pas. C'est comme, vous savez, c'est comme les personnes, une femme ou un homme dans la rue. Il y en a que on a envie d'aborder, et puis d'autres pas. Et puis parfois on se trompe et parfois on se trompe pas. Mais c'est le charme de la vie.
Le film que vous avez le plus vu, Gérard Jugnot?
Je crois que c'est Quai des Orfèvres. J'adore Clouseau.
Tandis que dans chaque foyer, on s'apprête à fêter la nuit merveilleuse, chère à notre enfance, dans un bureau gris et hostile du Quai des Orfèvres, un homme lutte désespérément pour sauver sa tête.
Mais qu'est-ce que j'y étais pas? Foutez-moi la paix là-bas! J'en ai ma claque, là!
C'est une lutte serrée, implacable.
T'occupe pas. Ici, on pose des questions. On n'y répond pas.
Un crime a été commis et l'appareil répressif de la société est en marche. Rien désormais ne l'arrêtera.
J'ai dû voir, je sais pas, 6 fois, 7 fois, mais les films, on les voit pas souvent, quoi. L'avantage aussi, c'est que mon disque dur est tellement plein que j'oublie beaucoup, donc parfois je vois des films que je revois avec plaisir, j'avais oublié. Même parfois mes propres films, tendance, je tombe dessus et je les regarde, ou je regarde un bout, je dis, ah tiens, il y avait ça, et je pourrais pas vous dire ce qu'il y a après, mais et je me dis, ah tiens, c'était pas si mal, ou alors... Globalement, je suis plutôt assez fier de tout ce que j'ai pu faire. Disons qu'il n'y a pas toujours du talent, mais en tout cas, il y a du travail et de l'acharnement.
La plus belle scène de cinéma, selon vous?
C'était un film... Enfin, pour moi, il y a eu des milliers de belles scènes. Mais moi, j'aime quand on sourit en pleurant, enfin, ou quand on... On rit la gorge serrée, comme disait encore mon ami Rochefort. C'était La Rose et la Flèche, un film pas très connu de Richard Lester, avec le regretté Sean Connery et Audrey Hepburn, qui est l'histoire d'un Robin des Bois vieux qui revient... c'est la suite de Robin des Bois. Il a de l'arthrose, il dort dans la forêt, mais c'est très humide. Il retrouve Marianne, qui est assez âgée, mais encore très belle, puisque c'est Audrey Hepburn. Lui, il a 50 ou 60 piges. Et à un moment, il s'empoisonne, je sais pas, ils meurent tous les deux.
Je t'aime tant, plus que tout ce qui existe. Je t'aime plus que l'enfant qui naît, plus que les blés que j'ai plantés de mes mains. Oh, je t'aime plus que la chaleur du soleil. Je t'aime plus que Dieu.
Et il prend son arc et il dit à son serviteur, tu nous enterreras là où la flèche va retomber. Il tire, la flèche part, elle part dans le ciel, elle retombe jamais, elle part dans les étoiles, dans le firmament. Et ça, je trouvais que c'était absolument magnifique. Il a fait des très beaux films, Richard Lester. Il a fait des Trois Mousquetaires très réussis, avec beaucoup de fantaisie, à la De Broca, avec beaucoup un mélange comme ça de genre, de drôlerie et d'émotion. Et j'aime beaucoup ces films comme ça, qu'on dit mineurs et qui sont parfois majeurs pour moi.
Le film qui vous a fait le plus rire?
Le problème des films, c'est qu'ils vous font rire, et puis après, quand on les revoit, on rit moins. Moi, c'était... Nous, on avait un film culte avec mes camarades du Splendid, c'était La Partie de Black Edwards avec Peter Sellers. C'est vrai qu'on riait énormément à ces films. Mais je les ai revus, c'est pas aussi... ça s'est un peu émoussé, quoi. Mais bon, moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai beaucoup, beaucoup ri.
Et le père lui a dit « le landau vaut plus cher ». Je ne la connaissais pas encore, le landau vaut plus cher.
J'ai manqué le plus beau, mais quand je vois comme cette histoire vous a réjoui, je crois deviner aussi l'humour de cette anecdote. Parce que la façon dont vous riez, on voit qu'on peut vous amuser. J'adore un bon rire, pas vous, pour faire tourner la terre. Il n'y a rien de tel que le rire. Magnifique, magnifique.
Le film que vous conseilleriez à votre meilleur ami?
Ça dépend. Je crois que le cinéma, c'est d'ailleurs ça qui est formidable maintenant, qu'on a des DVD, des choses à la demande. On peut choisir. Donc le cinéma, ça dépend des fois, ça dépend des jours, ça dépend de l'humeur. Mais en tout cas, je dois dire qu'un bon Melville ou un bon Clouseau, L'Armée des Ombres, c'est un film absolument formidable. Ça fait partie de ces films que j'ai vus et revus aussi, ça.
Erste Reihe, links, um. Ohne Tritt, marche.
Dans une minute, vous allez vous tourner. Le dos aux mitrailleuses et face au mur. Vous allez courir aussi vite que vous pourrez. Nous n'allons pas tirer tout de suite. Nous allons vous laisser une chance. Qui arrivera jusqu'au mur sera exécuté plus tard avec les condamnés prochains.
Allez!
Je ne veux pas courir.
Skip, feuer!
Et le film que vous conseilleriez à votre pire ennemi?
Un bon Rivette de 4h10. Je me souviens, j'étais fasciné par ça. L'amour fou, c'est un film de 4h15. J'en raffolais beaucoup par snobisme quand j'avais mon ciné-club, mais je peux avouer que c'était quand même très ennuyeux.
Et pour finir, Gérard Jugnot, la bande originale qui a le plus marqué votre vie?
Je crois que c'est L'été 42. Ou celle de Platoon avec Adagio de Barber. Et puis, j'oubliais Le Mépris, bien sûr. Delerue, c'était un génie.
Merci Gérard Jugnot de vous être prêté au jeu de ce questionnaire de clap. Je rappelle votre actualité, donc ce livre, C'est l'heure des contes, qui est publié chez Flammarion. Et on vous retrouve bientôt au cinéma.
Oui, je viens de terminer mon 12e film qui s'appelle Le Petit Piaf, qui sortira en octobre avec Marc Lavoine et le petit Sohan. Et puis là, j'étais dans un film que je crois assez réussi qui s'appelle Pour y gâter avec Artus, Camille Lou, François Morel. Et un film de Nicolas Cuche qui, j'espère, sortira sur des écrans, je ne sais pas lesquels, en février.
Le plus possible et le plus vite possible. Merci beaucoup Gérard Jugnot en tout cas.
Voilà, bah écoutez, oui, L'heure des contes, c'est un petit cadeau de Noël écrit par le Père Noël qui est une ordure. Voilà.
On se retrouve dans un instant pour la suite de votre émission Clap, le temps d'accueillir mes collègues critiques. À tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et en ce lendemain de Noël, ils sont fidèles au poste pour parler des films à voir ou revoir sur vos plateformes ou en DVD VOD. Aujourd'hui, autour de la table, Marilyn Letertre de Madame Figaro et Fabrice Leclerc de Paris Match. Bonjour à tous les deux.
Bonjour et bonne fête.
Bah oui, bonne fête. Vous n'avez pas trop mangé à Noël, ça va?
Non, ça va.
Bon,
pas
vous êtes
tout.
Sérieux. Au programme, on va débattre du nouveau film de Georges Clooney sur Netflix. Ça s'appelle Minuit dans l'univers, de Soul, le nouveau Pixar disponible sur Disney+. Et puis on parlera aussi de Selfie et du Prince oublié qui était sorti il y a quelques mois et qui sont désormais disponibles pour les abonnés Canal et en VOD pour les autres. Mais pour commencer donc, voici voilà le 7e film de Georges Clooney en tant que réalisateur, film dans lequel il joue également le rôle principal. On parle de Minuit dans l'univers.
C'est un vaisseau spatial. Il revient d'une planète sur laquelle on avait misé notre avenir. Il faut que j'entre en contact avec eux. Bientôt, il sera trop tard.
Dernier contact avec le centre de contrôle.
3 semaines. On a perdu le contact avec la NASA ainsi qu'avec tous les autres.
C'est juste un bug. T'es vraiment sûr de ça ?
George Clooney qui est donc resté seul dans le cercle arctique, enfin pense-t-il en tout cas, dans l'observatoire Babo précisément, on est en 2049, tous les autres ont été évacués par l'armée. Alors il a tout du solitaire, hein, cette barbe longue, les cernes sous les yeux, la peau sur les os, je crois que Clooney a perdu 12 kilos pour jouer ce rôle. Lorsqu'un jour il découvre une petite fille restée elle aussi sur la base, ce qui évidemment chamboule ses plans puisqu'il faut qu'il trouve un moyen de communiquer avec l'extérieur pour sauver cette petite. Il va alors entrer en contact avec Sully qui avec son équipage est en train de rentrer d'une mission sur Jupiter. Il veut en plus les empêcher de rentrer puisque sur la Terre ça va pas vraiment très bien. Voilà, il y a de magnifiques images d'espace, de magnifiques images d'Arctique, de magnifiques images de George Clooney, une histoire familiale, une histoire d'un monde à bout de souffle, une histoire de problématiques écologiques. Il y a beaucoup de choses, trop ou pas, Marilyn Le Tertre.
Trop et pas. C'est-à-dire que il y a
Georges, si tu nous écoutes.
Il y a visuellement, c'est absolument scotchant. C'est très très beau, c'est bien produit, c'est léché.
Ah, ça c'est sûr.
On sent que Georges est complètement imprégné de cet univers qu'il connaissait bien puisque on le rappelle.
Georges, c'est un proche.
Georges, on est très intimes lui et moi, mais c'est un secret. Ce qu'il a tourné dans Solaris, ouais, et Gravity notamment.
Ah oui, il y a beaucoup d'inspiration.
Il y a énormément d'inspiration qu'on sent dans le film, notamment dans l'approche du film, parce que c'est davantage un film, un drame intimiste qu'un film à effet, un film spectaculaire. On n'est pas du tout là-dedans. Il y a 2-3 morceaux un peu de bravoure, mais ils sont très peu nombreux. Il faut quand même avertir le public qu'on est plutôt dans l'introspection. Voilà. Ça étant dit, Georges Clooney, ben, il le fait très bien, l'introspection. On est très content de le revoir à l'écran. On ne l'a pas vu dans un film. On l'a vu dans une série, mais pas dans un film depuis Money Monster de Jodie Foster. Donc les fans de Clooney seront ravis. Après, qu'est-ce que ça me raconte ? Qu'est-ce que j'en garde ? Je sais pas trop.
Bon.
Voilà. Mais j'ai pas passé un moment désagréable. Voilà, parce que c'est beau, c'est bien produit. Il y a Georges.
Oui, bien fait.
Voilà.
Il y a Georges, toujours Georges. Fabrice Leclerc, Minuit dans l'univers.
Alors, première chose, on ne dira jamais assez que George Clooney est un grand acteur, mais aussi un grand metteur en scène. Et Dieu sait si ça se voit dans ce film, qui est absolument brillant. Fait de main de maître, on pourrait penser à du James Gray, on pourrait penser à beaucoup d'autres metteurs en scène, et Christopher Nolan. Et le film, pour ça, est assez extraordinaire. Après, voilà, c'est un peu Ad Astra qui rencontre Arctic. Et le gros problème du film, pour moi, c'est qu'il y a 2 films dans le film. Il y a 2 histoires qui se parlent, qui se répondent, mais qui n'interagissent pas. Il y a ce mystère sur Terre, cette Terre, la nôtre, hein, qui est en train de disparaître. Alors que s'y passe-t-il ? Peut-être le Covid-19.
Mais on ne sait pas.
Et puis surtout, alors là, il y a un gros, gros problème dans ce film-là. C'est la musique de Alexandre Desplat.
Ouais.
Alors, comment surligner, passer au stabilo-boss jaune fluo, des scènes qui sont déjà des scènes d'introspection, des scènes dans l'Arctique, des scènes dans l'espace. Et on en rajoute, on en retartine.
Très écrasant.
Très écrasant. Et le film perd beaucoup de sa superbe à cause de ça. Mais surtout, il y a 2 films dans le film, il y a 2 histoires dans cette histoire. C'est l'adaptation d'un bouquin qui avait énormément marché. Le film est très beau, le film se voit avec beaucoup de plaisir, mais...
Mais il y a une petite déception.
Qu'en reste-t-il ?
Voilà, on termine en disant...
Qu'en reste-t-il ?
Voilà, Minuit dans l'univers, ça vaut quand même le coup d'être regardé, mais c'est vrai que je pense que notre petite déception est aussi à la hauteur de l'attente qu'on avait dans ce nouveau film, effectivement réalisé par Georges Clooney, et dans lequel il joue le rôle principal. Vous trouvez donc ça sur Netflix.
Clap.
Deuxième film dont on débat aujourd'hui, très très attendu également, c'est Soul, le dernier né des studios Pixar qui devait sortir en salle et qui débarque finalement sur Disney+.
Voici le grand avant. C'est ici que les nouvelles âmes se voient attribuer leur personnalité avant d'aller sur Terre. Les mentors les aident à trouver leur passion, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes.
Ah bon, écoute, je suis sûre que t'as eu une vie formidable, mais je déteste la Terre. J'en veux pas, je suis très bien moi ici, j'ai mes habitudes. Je me laisse flotter, je fais des sudoku.
Ta vie est sur le point de commencer.
Joe Gardner est un professeur de musique afro-américain. Il enseigne dans l'équivalent d'un collège américain à des élèves qui n'en ont un peu rien à faire de ce qu'il leur dit. Son rêve à lui, c'était de devenir musicien de jazz professionnel. Sauf qu'un beau jour, il est à 2 doigts de l'atteindre, ce rêve. Ça y est, il est recruté pour une série de concerts. Joe est tout content, il danse dans la rue et badaboum, il tombe dans un trou d'égout et se retrouve propulsé dans une sorte de monde des âmes, c'est-à-dire comme un infini où les âmes, nos âmes, attendent d'être envoyées dans un corps sur Terre pour pouvoir prendre vie. Joe, il doit absolument retrouver son corps pour réaliser son rêve et il va alors rencontrer 22, qui est une petite âme qui n'a jamais cherché à trouver son corps, qui est complètement blasée, qui va l'aider. Je précise que les voix françaises pour Joe sont faites par Omar Sy, pour 22 par Camille Cotin. Moi, je trouve que le graphisme est dingue, je trouve que l'histoire est formidable. On parle beaucoup de suite de Vice-Versa, c'est pas tout à fait une suite, mais c'est vrai qu'on peut retrouver l'esprit de Vice-Versa. Est-ce que vous souscrivez, Fabrice Leclerc ?
Moi, je souscris totalement. C'est quand Pixar se met à faire des films comme ça.
C'est mieux que le précédent Pixar. Hein.
C'est beaucoup mieux que le précédent Pixar. On est évidemment à la hauteur de Vice-Versa, on est à la hauteur de Là-haut, on est à la hauteur de Wall-E, c'est-à-dire des meilleurs films des studios Pixar. Il y a plein d'intelligence, c'est tendre, c'est beau, c'est drôle. Vous allez pleurer, vous allez rire. Et moi, j'ai vraiment un conseil à vous donner. Alors, ce n'est pas un conseil qui va aller dans l'air du temps. Ne regardez pas le film sur Disney+. Attendez que ce film, un jour, ressorte en salle. J'ai été tellement frustré de voir ce film sur un petit écran, sur ma télévision. Franchement, il se passe ce qui se passe en ce moment. Les cinémas sont fermés. Les films ne sortent pas, mais ce film-là, quel dommage qu'on ne puisse pas le voir sur grand écran.
Marilyn, Soul ?
C'est une merveille. Voilà. C'est un petit bijou. C'est tout ce que Pixar sait faire. C'est-à-dire qu'il y a plein de niveaux de lecture. C'est drôle, c'est coloré. On en prend plein les yeux, effectivement. Et c'est aussi d'une très, très grande profondeur. C'est un film qui questionne sur les regrets, les choix de vie, la deuxième chance,
faut-il
la transmission.
Faut-il réaliser son rêve pour être heureux ?
Exactement, faut-il réaliser son rêve ? C'est d'une grande, grande humanité. Et petit détail qui, pour moi, a son importance aussi, c'est que là, donc, le héros est un pianiste de jazz afro-américain. Donc, comme on dit, un héros issu de la diversité. Mais il n'est jamais caractérisé par son identité afro-américaine, mais par son humanité, ses questionnements profonds qui sont absolument universels. Et c'est exactement l'enjeu dont il est question aujourd'hui pour la diversité au cinéma. C'est sortir les personnages de leur case pour raconter des histoires universelles. Et Pixar y arrive très bien, on est ému, on pleure, c'est un bijou, on a envie de le revoir dès que ça se termine.
Il faut dire que c'est la première fois, je crois, que Pixar met un héros afro-américain en tant que personnage principal.
Alors donc, Pixar,
bien...
oui.
Et voilà, Pixar. Donc, c'est bien de le souligner aussi.
Absolument.
Même s'il ne joue pas
et souligner le talent du réalisateur qui s'appelle Pete Docter, qui a fait les plus grands Pixar de ces dernières années et qui est juste un très très grand metteur en scène.
Et la bande son aussi à souligner, jazzy d'Atticus voilà. Ross et Trent Reznor qui est magnifique.
Et les décors, donc, le maquillage, les costumes.
Ne le regardez pas sur Disney+, et quand il ressortira dans 5 ans, on ira tous le voir au cinéma, d'accord ?
Soul sur Disney+, désolé de le dire. On a aussi parlé de Minuit dans l'univers, ça c'est sur Netflix. Et je voulais maintenant qu'on aborde Selfie.
Bonjour à tous et merci de nous suivre. Aujourd'hui, on avait envie d'aborder avec Émilie des problèmes de boulimie.
Mais j'ai pas de problème, moi.
Et je vous fais les 100 000 abonnés pour 3 000 euros.
Et à ce prix-là, on peut avoir des commentaires positifs.
Et je le fais pour une comédie française sur deux.
Très frais qu'au début.
C'est chiant d'être allergique au chat, putain. On aura un chat. On aura des millions de vues, là.
Alors, Selfie, qui est un film à sketch sur les ravages des nouvelles technologies et des réseaux sociaux. Alors, vous avez notamment un quarantenaire, Manu Payet, complètement accro, vous savez, aux algorithmes qui vous soumettent des achats. Alors lui, il pense que si on lui soumet un achat, c'est parce que ça doit vouloir révéler quelque chose de sa personnalité. Il devient complètement fou. Moi, mon sketch préféré, c'est celui porté par Blanche Gardin, qui est mère d'un petit garçon atteint d'une maladie orpheline. Elle commence comme ça à raconter leur quotidien sur les réseaux sociaux. Les millions de followers sont là, commentent, leur disent à quel point ils les aiment, jusqu'au jour où, miracle, son petit garçon est guéri. Miracle, mais drame, puisqu'évidemment, sur les réseaux sociaux, eh bien, tout s'effondre. Je trouve ça assez, assez drôle. Ce n'est pas forcément le cas de tous les sketchs. Qu'est-ce que vous en pensez, Marilyn ? Selfie.
Bah, c'est exactement ça. C'est le travers classique du film à sketch, c'est que c'est inégal. Il y en a des plus ou moins bons. Et comme vous le disiez, celui avec Blanche Gardin est évidemment génial. Il tient aussi à l'interprétation de Blanche Gardin. Mais moi, j'aime aussi beaucoup celui avec Elsa Zilberstein, qui me fait beaucoup rire, parce que je la trouve très très bonne en comédie. En revanche, c'est vrai que celui avec Manu Payet me parle beaucoup moins. Et l'épilogue, je trouve, est complètement raté. Il est interminable. Donc voilà. Et après, les thématiques que ça aborde, donc notre rapport aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux, sont hyper intéressantes. D'ailleurs, Carverne et Delépine l'ont fait aussi dans leur film Effacer l'historique, aussi avec Blanche Gardin. Et moi, je reverrai davantage Effacer l'historique que Selfie, personnellement.
Et tac, Fabrice Leclerc, Selfie.
Non, exactement la même chose. C'est une très bonne idée. Il y a 20 premières minutes qui sont excellemment bien écrites. Et ensuite, le film part, part un peu dans n'importe quoi, part dans la comédie un peu plus balisée. Le final, évidemment, et c'est un gros final, hein, c'est quand même 15-20 minutes et totalement incompréhensible. On ne sait pas du tout pourquoi le film se termine de cette façon. Une belle brochette d'acteurs. Moi, je suis moins fan de Blanche Gardin dans ce film. D'ailleurs, comme dans Le Kerven des Lépines, je vais encore m'attirer des amis. Je trouve qu'elle surjoue. Je trouve qu'elle joue Blanche Gardin depuis un certain temps et j'aimerais bien qu'elle fasse autre chose. Non, voilà.
Le débat, ce n'est pas pour vous. Non,
mais très bonne idée. 20 premières minutes, vraiment ouais, extra. Et ensuite, on perd le film.
Voilà, c'est Selfie.
Clap.
Et puis maintenant, on va débattre du Prince oublié avec Omar Sy et François Damiens notamment, qui était sorti en salle il y a quelques mois, qui débarque sur Canal et en VOD. C'est réalisé par Michel Hazanavicius.
Il est l'heure d'aller se coucher là. Et vite, sinon il va être trop tard pour l'histoire. Alors on était où déjà ?
Chaque soir, au moment de l'endormir, le père de Sophia devient le prince d'un monde merveilleux inventé pour elle.
Début de l'histoire dans 2 minutes.
Et chaque soir...
J'arrive, princesse !
Le prince sauve sa princesse. Jusqu'au jour où...
Comment ça, pas d'histoire ?
Papa, j'ai 11 ans. Je peux me les faire toutes seules, mes histoires, maintenant. Tu comprends ?
C'est la fin, mon pote.
Alors, nous avons une petite fille qui s'appelle Sophia, qui a 8 ans, qui vit seule avec son papa, donc Omar Sy, et tous les soirs, pour l'endormir, il lui invente une histoire dans laquelle l'héroïne est toujours une certaine Sophia, sauvée par son papa, un prince courageux. On voit tout ça à l'écran, on voit cet univers imaginaire, jusqu'au jour où Sophia rentre au collège. Et évidemment, papa n'est plus le prince, mais il est remplacé par un petit garçon, voilà, un petit camarade de classe, qui est bien mignon, il faut bien le dire, un petit blondinet. Sauf qu'Omar Sy n'entend pas se laisser faire et va se rebeller. Je le redis, on voit l'espèce d'imaginaire, donc on est dans un décor un peu étrange, moi que je trouve qui a coûté très 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 cher, qui faisait un peu cheap, 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 cheap. Marilyn, le prince oublié.
Eh bien, je ne voudrais pas en mettre une petite couche sur Saul, mais quand même, on préfère Omar Sy quand il fait la voix de Saul que quand il joue le prince oublié. Voilà, et écoutez, alors, je vais avoir du mal à débattre des heures sur ce film, parce que déjà, ce ne serait pas sympa de s'étaler pour dire tout le mal que j'en pense.
Oui.
Mais je trouve ça effectivement assez cheap, visuellement.
Mais c'est fou,
alors
parce que c'est un film qui a coûté
énormément d'argent. Je trouve ça mal joué, mais par tout le monde. Ils sont tous à côté de la plaque et voilà. J'aime beaucoup Michel Hazanavicius, mais là, j'avoue que le film, mes bras m'en sont... Enfin, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Je trouve que tout sonne faux. Les dialogues, l'interprétation, l'espèce de sentiment en carton, là, comme ça. Bon, bref, non, vous voyez plutôt Saul.
Non, attendez, calmez-vous.
Non, mais allez-y, défendez-le.
Non, mais calmez-vous. J'ai une petite tendresse pour le film. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'on voit peu de projets comme ça en France.
Oui, d'accord.
Ah oui, moi, j'ai une tendresse pour la démarche.
Qui va faire un film américain, un film hollywoodien, un film Disney en France aujourd'hui ? Il n'y a réellement que Michel Hazanavicius qui sait le faire. Et il le fait plutôt pas mal, je trouve, en termes de mise en scène. Après, le problème, c'est que nous, on n'est pas équipés en production et je pense qu'on n'est même pas équipés mentalement pour pouvoir réussir ce genre de film. Je crois que quand on va sur le terrain du grand film un peu merveilleux à effets spéciaux hollywoodien, on se plante. Pourquoi ? Je ne sais pas. En tout cas, je trouve qu'il y a plein de bonnes intentions. C'est vrai que les acteurs sont pas très bons. Le film part en sucette totalement à la fin et même les effets spéciaux deviennent de moins en moins beaux et de moins en moins réussis, alors que c'est vrai, le budget du film était à la hauteur de l'enjeu. Voilà, c'est une belle tentative, un peu ratée. Tout n'est pas acheté dans le film. Je ne suis pas aussi dur que Marilyn. Mais enfin, quand même, oui, revoyez... vous ne pouvez pas revoir Saul parce qu'il faut attendre qu'il sorte au cinéma. Bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous conseiller ?
Les nœuds au cerveau. Vous avez vu quand même cet exercice de style d'essayer de défendre le prince oublié tout en se rendant compte que c'est quand même... difficile, hein, mais c'est non, mais la défense est réussie. Merci beaucoup, Fabrice Leclerc.
Merci à vous.
Le prince oublié. On a aussi parlé de Selfie. On a parlé de Minuit dans l'univers et de Saul qui ne faut surtout pas louper. Marilyn Letertre, merci aussi d'être venue dans ce nouveau numéro de
merci
Clap,
beaucoup.
Réalisé par Nicolas Baudin, préparé par Marjorie Adelson. et disponible en podcast sur toutes vos plateformes. Je vous précise également qu'exceptionnellement, la semaine prochaine, on prend une petite semaine de vacances. Mais restez à l'écoute puisque vous aurez droit à un épisode inédit de Sériland. C'est le podcast d'Europe 1 Studio qui raconte l'actualité des séries. Ça sera l'occasion de le découvrir si vous n'êtes pas déjà abonné. Et nous, on se retrouve dans deux semaines, le 9 janvier, pour un nouveau numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Très bonne fête à tous à l'écoute d'Europe 1. Europe 1.